du jour avec le Père Willem.
L'amour jusqu'au bout. Dans l'évangile de selon Marc, au chapitre 15, Pilate, dans le dessein de satisfaire la foule, leur renvoie Barabbas, et il leur livre Jésus après l'avoir flagellé pour qu'il soit mis en croix. Oui, Pilate s'est piégé lui-même en donnant le choix entre Jésus de Nazareth et Jésus Barabbas. Il s'est coincé à livrer à la mort celui des deux qui reste. Il ne s'est pas gardé de porte de sortie. Pilate n'ose pas aller jusqu'au bout de ce qu'il pense par peur de perdre son pouvoir. Avec autorité, il livre Jésus comme les grands prêtres lui ont livré. Mais en réalité, sa puissance est une illusion, puisqu'en fait, il en est prisonnier. Il a joué, il a perdu. Il livre Jésus, l'innocent, et relâche Barabbas, le meurtrier, obligé de contenter la foule et le Sanhédrin. La parodie de procès se termine, comme prévu, lamentablement. Cette histoire d'il y a 2000 ans met en lumière le fonctionnement prédominant de notre histoire. René Girard a mis en évidence ce mécanisme du bon et du bouc émissaire. Le groupe dominant désigne un coupable qu'il charge de la responsabilité du problème. En le supprimant, il croit avoir résolu le problème. Grosse illusion qui permet à tous les autres de ne pas se remettre en question et nourrit la croyance en l'efficacité de la violence. En réalité, cela maintient la cohésion du groupe et renforce la violence. Pilate ne croit pas à la culpabilité de Jésus et pourtant il le fait flageller avant de le livrer pour la crucifixion. Alors, pourquoi ? Pourquoi livre-t-il Jésus à la cohorte ? Pourquoi les soldats sont-ils si pressés d'en rajouter en se moquant de lui et en l'affublant d'une couronne d'épines ? L'occupation d'une contrée rebelle est une violente continue, sourde. Les soldats se sont-ils sentis souvent méprisés, menacés? Voici qu'ils peuvent déchaîner leur violence sur un de ces Juifs qui posent problème à l'Empire. Alors ils l'emmènent dans leur caserne. Ils appellent tous les copains et ensemble, ils ridiculisent celui dont le peuple disait qu'il allait les chasser. Ils le déguisent pour le dépersonnaliser, un peu comme au Sanhédrin. Il le frappe, lui crache dessus. Ce sont bien eux, oui, les plus forts. Il n'y a plus personne pour faire respecter la justice, pour manifester un peu d'humanité. Les condamnés sont là. Mais le seul vraiment condamné, c'est Jésus. Et il se retrouve aux mains des bourreaux et va subir l'infâme torture. Nous passons à côté de la violence sans nous en rendre compte. Oui, nous sommes aveuglés. Et nous dit Marc, ils le conduisirent dehors. Ils vont le mettre en croix. Ils requièrent un passant, Simon de Cyrène, qui venait d'un champ. C'est le père d'Alexandre et de Rufus, pour qu'il porte sa croix. Et ils le traînent au lieu de Golgotha, qui se traduit « lieu du crâne ». Voici le témoignage d'un couple de pèlerins à Jérusalem qui était dans cette ville il y a quelque temps. Nous avons vécu une expérience très forte sur le chemin de croix à Jérusalem. C'était le dernier jour de notre voyage. Nous avions appris qu'il y avait une procession de chemin de croix organisée tous les vendredis. À l'heure précise, nous nous rendons au lieu de départ. Il pleuvait et il n'y avait personne. Nous demandons des informations. Normalement, il y a tous les vendredis une procession, mais comme il pleut et que c'est la basse saison touristique, les pères franciscains ont décidé de ne pas la faire, cette procession. Alors nous achetons un petit guide et nous nous mettons en route tous les deux. Nous étions sur le chemin présumé, disons, où Jésus a porté sa croix. La vie continuait. Bon, des amis tapaient la carte. Le commerce allait bon train. Un couple se disputait. Personne ne faisait attention à nous. Les stations étaient toutes fermées par de grosses portes en acier et de solides cadenas. Contre l'un d'elles gisaient des sacs d'ordures et sur une autre, un homme ivre cuvait son vin. Mais la plus grande surprise pour nous fut de nous rendre compte qu'au hasard de nos précédentes pérégrinations à Jérusalem, nous étions déjà passés par tous ces endroits. Alors nous aussi, comme tout le monde qui vit sans se rendre compte, nous étions passés sur le chemin de croix de Jésus sans le savoir, sans le voir. Combien de fois dans notre vie de tous les jours passons-nous à côté de Jésus qui porte sa croix vers le Golgotha et ne le voyons-nous pas? Combien d'hommes et de femmes broyés par la violence ne voyons-nous même pas passer? Combien d'autres avons-nous aperçus, parfois en pensant il l'a bien mérité, d'autres fois en se détournant la tête? Oui, ce n'est pas notre affaire. De toute façon, je ne peux rien y faire. Parfois, peut-être, en l'aidant à porter sa croix durant quelques pas. Marc semble nous faire un clin d'œil en ce sens. Ce n'est pas un des apôtres, ni même un disciple qui aide Jésus à porter sa croix, mais un paysan, un juif, originaire d'Afrique du Nord, Cyrène et dans la Tunisie actuelle. C'est un père de famille ayant deux fils qui passait par là, revenant des champs. Il allait en dehors de tout cela. Ce qu'il fait ne résout rien, mais c'est énorme, une présence humaine qui soutient Jésus. Comme pour nous montrer et nous dire souvent, nous ne pouvons rien faire de plus. Notre impuissance aurait tendance à nous pousser à la fuite ou parfois à aboyer avec la meute. Mais n'oublions pas que nous pensons faire quelque chose de tout simple. Nous pouvons le faire, à la portée de tous, être présent à celui qui souffre. Laissons-nous mener par le Dieu de la vie quotidienne, où il est si souvent ignoré, par nous-mêmes en premier lieu, passant par des situations où nous croyons enfermés, des couloirs souterrains, des rencontres qui nous insécurisent et semblent appartenir à un autre âge. Il nous conduit par vagues jusqu'au lieu de l'amour suprême, jusqu'à l'ouverture de nos yeux intérieurs pour voir notre Dieu crucifié, en Jésus d'abord et en chaque homme aujourd'hui. Il le traîne jusqu'au Golgotha. Jésus épuisé n'en peut plus. Il refuse un breuvage censé être enivrant ou anesthésiant. C'était la troisième heure, c'est-à-dire 9 heures du matin. Pierre nous fait ressentir combien cet épisode lui a semblé s'éterniser. Il nous invite à entrer dans son expérience, à ne pas passer trop vite. Les soldats, eux, ont fait leur boulot, sale besogne. Cela mérite bien un petit avantage. Alors ils se partagent les vêtements de Jésus, ce qui leur revient de droit. Remarquons que les réels instigateurs font faire le sale boulot par d'autres qui eux-mêmes ne font qu'exécuter les ordres et n'ont rien décidé du tout. Cette division des tâches permet à chacun de garder sa conscience tranquille.